Qu'est-ce qui vous fait rire, Edwards?
C'est votre Captain America de service, là. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Avec pension. Le mec, il est déjà hystérique alors qu'il sait pas du tout ce qu'on fait ici. Et moi, je trouve ça vachement fandard.
Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans le Must du Must, le podcast que tu dois écouter. Et je suis Starflord, alias Florian, qui va être le leader de cette émission, le créateur même, mais je ne serai pas seul, car oui...
Bah, je suis accompagné d'une équipe de choc, et pour ça je me dois de les laisser se présenter, et on va commencer par Sam. Salut Sam.
Bonjour.
Ensuite...
Je savais pas que ça serait mon
prochain. Et oui, après ben, on a notre cher ami Pierre. Salut Pierre.
Salut.
Et on a Erwan. Salut Erwan.
Bonsoir.
Voilà, donc pour le moment on est 4, il y aura peut-être plus de personnes, on verra. Pour le moment on reste à 4 personnes, c'est pas plus mal. Je vais vous laisser faire une petite présentation chacun. Voilà, et bah du coup j'ai commencé par Sam, donc vas-y, présente-toi.
Oui, bah alors moi c'est Samuel, je fais de l'illustration et du podcast sur le podcast Image par Image dont fait partie Flo. Et dont les deux autres ont déjà pu apparaître oralement, bien sûr, j'entends. Et voilà, c'est tout. C'est un podcast sur le cinéma d'animation.
Et t'as un petit pseudo sur lequel on peut te retrouver, genre Creepy Pikachu, je crois.
Oui, après, oui, sur les réseaux sociaux, je suis Creepy Pikachu pour des avis foireux sur Twitter et des stories improbables sur Instagram.
Bah, ouais, qui va encore sur Twitter en vrai, franchement.
Moi, pour voir les avis de Marvin.
Ah oui, juste pour Marvin, ouais, ça on est d'accord. Bisous Marvin. Bisous Marvin Montes. Bah Pierre, présente-toi, à ton tour.
Et alors, bah, moi c'est Pierre, je fais du Photoshop quand j'ai du temps et quand je trouve des gens, je fais des films. Et voilà. Un peu plus compliqué que le podcast, hein. Mais bon, voilà.
Donc on va respecter cet homme, hein, s'il vous plaît. C'est un peu notre doyen. D'ailleurs, dans la légende, on dit que Pierre est plus vieux que nous tous réunis ici. Voilà. Mais il arrive à faire des films, et ça, c'est voilà. Tout le respect. Donc voilà, dans tous voilà, les cas, je mettrai vos liens dans la description voilà, pour tout ce que vous faites. Voilà. Et du coup, Erwan, présente-toi.
Alors, bonsoir. Moi, je suis Erwan. J'anime un podcast à l'heure actuelle qui est en pause, qui s'appelle Hors de la Bulle, qui revient sur les adaptations de comics, peu importe les supports, qui est en pleine restructuration et qui devrait reprendre en janvier avec notamment probablement Pierre dans l'équipe.
Oh.
Nous travaillons aussi à deux.
Peut-être.
Enfin, à plusieurs, ouais. Et que Pierre sera peut-être dedans. Et petite info aussi, donc je suis là, j'ai un deuxième podcast qui devrait arriver courant février aussi. Voilà, sur un thème qui n'a rien à voir, mais qui est là. Et après, okay. Vous pouvez me retrouver uniquement sur Instagram, qui est le seul réseau que je possède actuellement. Et c'est tout. Sous le nom Bad Lemon JJT. Et voilà.
Et ben,
mais rien de très intéressant sur Instagram à part partager des mèmes et des conneries en story.
Je crois qu'on est un peu tous comme ça et c'est pour ça que j'ai décidé de monter cette équipe. C'est que finalement on va se retrouver sur plein de sujets, plein de passions ou quoi. De toute façon, je vais expliquer un peu le concept du podcast. Bah, je suis dit par me présenter quand même. Donc Florian alias Starflord. Je suis un ancien vidéaste streamer, si je peux me prétendre dire ça comme ça. Donc je connais. On va dire la culture internet depuis 2009, ce qui semble très vieux, mais voilà, ça a une certaine importance pour ce qui s'ensuit après, ce qui fait que voilà, j'essaye de faire du stream, j'ai mis une énorme pause pour le moment, et actuellement, je me suis remis à une de mes plus vieilles passions qui est la peinture, et donc j'essaie de partager ça sur Instagram également. Et donc du coup, ce podcast pour moi est aussi une façon un petit peu de me renouveler par rapport au fait que j'étais sur du format vidéo, sur du direct live, et ben là, je me dis que le podcast, ça me traite en tête depuis très très longtemps. Je me dis, allez, on va faire ça ensemble, avec des potes, il n'y a rien de mieux. Donc voilà, là, on est tous un petit peu des passionnés sur diverses choses, mais qui sont toujours en lien avec quelque chose qui est la pop culture. On peut se dire être des consommateurs, mais on a un certain esprit critique qui fait que c'est intéressant de partager des choses, mais de dire pourquoi on le partage et pourquoi ça nous parle. Et donc c'est pour ça que le Must du Bust, ça va être en fait un podcast qui va proposer un thème précis Et chacun va venir avec sa petite œuvre pop culturelle en rapport avec cela. Et non pas de faire un battle de qui c'est qui a la meilleure œuvre, mais tout simplement de dire bah, pourquoi on recommande cette œuvre-là. Et donc, pour un premier épisode de pilote, bah, je me suis dit... Alors, du coup, comme je dis œuvre pop culturelle, ça peut être un jeu vidéo, comme ça peut être un film, une série, un livre, un spectacle, n'importe quoi, vraiment. Tant que c'est en rapport avec la culture et la culture populaire, donc. Et là, en l'occurrence, quand on parle pilotage, moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est Mario Kart. Forcément, je pense que vous avez déjà tous joué à Mario Kart. On s'est tous foutus sur la gueule dessus, hein, on est d'accord?
Oui.
Oui.
Voilà, j'ai plus d'amis.
Eh ben, détrompe-toi, maintenant, tu vas avoir un nouveau jeu pour te battre entre amis, et t'inquiète pas que là. Eh ben, je pense que c'est beaucoup moins cruel que l'est un Mario Kart, puisque plutôt que de faire dans la facilité, je me suis dit, on va aller chez les concurrents, vers ceux qui essaient de faire un peu la même chose. Et non, je parle pas de Cocoto Racer, je sais pas.
J'ai pas la ref.
Ah, t'as pas ce jeu? Je vous invite à chercher Cocoto Racer, c'était une tentative vaine de Big Ben d'avoir fait un Mario Kart discount, mais vraiment dégueulasse. C'est vraiment ignoble. Et c'était à l'époque de la Wii, hein, donc Cocoto Kart.
Ah, mais Cocoto, c'est ce personnage démon de merde, là.
Oui, c'est l'espèce de petit diable qui ressemble à rien, là, tu vois.
Ah, je crois savoir.
Ben ça, tu le trouvais dans
après,
les...
Après, des clones de Mario Kart sur la Wii, il y en a eu à la pelle.
Ah, ça, tu le trouvais, mais dans tous les supermarchés, dans les bacs à soldes.
Oui, non, mais ça, celui-là, c'est le meilleur.
Je crois qu'on a des connaisseurs. Mais du coup, moi, je vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler carrément d'un jeu fait par Gameloft. Donc, Gameloft, peut-être que ça vous parle. Oui. C'est tout simplement, en fait, une énorme boîte leader dans le monde du jeu vidéo, en fait, et qui n'est autre... créé que par le frère de Yves Guillemot, donc, qu'on connaît pour Ubisoft, et bah oui, son frère Michel Guillemot a monté Gameloft comme étant une énorme boîte qui va faire beaucoup de jeux mobiles, et c'est pas impossible que vous ayez déjà joué à un de ces jeux mobiles estampillés Gameloft, notamment Asphalt, Urban GT, Modern Combat, Gangstar, voilà, bon bref. C'est vraiment, leur but c'est, on va reprendre des gros classiques et on le fait à notre sauce, voilà, c'est... Ubisoft, mais qui aurait poussé le vice à fond, en fait. J'assume pas du tout, mais je fais quand même mon gros plagiat, c'est pas grave, on y va à fond, quoi.
D'ailleurs, on notera que le logo de Gameloft est un peu comme le logo d'Ubisoft, mais plus resserré, plus aplati.
Ouais, c'est une petite spirale.
C'est une espèce de spirale
ouais,
aussi.
Ouais, mais en carré, donc c'est pas pareil.
Ah oui, non, bien sûr, mais bon, quand tu sais qu'il y a un lien entre les deux, c'est, tu peux pas t'empêcher de oui, dire non. Ouais, bon, frérot.
Bah, je sais
ouais.
pas si le studio n'appartient pas à Ubisoft en plus maintenant.
Je sais plus.
Bah, c'est possible, mais Gameloft, ça fait longtemps que c'est ça leur logo.
Maintenant, c'est Vivendi qui détient 100% du capital de Gameloft, donc ils ont.
Ah, Bolloré.
Voilà, on est bien, hein. Et c'est Stéphane Roussel notamment qui a été nommé pour remplacer Michel Guillemot, qui s'est barré suite au rachat. Donc voilà, ça va avoir une certaine importance parce que Gameloft en fait était un petit peu en perdition pendant des années parce que autant au début du marché du mobile c'était super intéressant, là c'est l'abandon. Mais là je sais pas, ils se sont dit tiens on a Disney entre les mains et si on faisait quelque chose avec Disney. Donc Disney très précisément, je vais parler de forcément Disney Speedstorm. Du coup, est un jeu de bagnole dans l'univers Disney. Là, déjà
petite
dites,
partie
okay.
Après.
Grave.
Pas le temps.
Et donc, pour vous la faire courte, en gros, c'est un jeu de course qui se fait en solo et surtout en ligne et en écran partagé. Heureusement d'ailleurs. Et c'est sorti en avril 2023 en accès anticipé, mais payant. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait que tu achètes un pack fondateur à 60 balles en gros pour y accéder. Ce qui est honteux. Et là, le jeu est sorti donc en free-to-play en septembre, il n'y a pas longtemps du tout. Et je me suis dit, allez, on va essayer. Je vois le logo Gameloft, je flippe un peu quand même. Je me dis, ok, d'accord. Et dès le début, tu commences dans une ambiance Jackie Tuning, qui vraiment est sponsorisée de ouf de partout. C'est beau, c'est clinquant, avec des modèles 3D vraiment ultra classe, qui me rappelait un petit peu les figurines Disney Infinity, si vous avez connu.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, y a un côté Disney Infinity un peu plus élaboré, je trouve, visuellement.
Et je trouve que c'est une patte qui marchait très bien pour ces figurines-là, et qu'ils ont un petit peu abandonné, même si les figurines, maintenant, tu les trouves à Disneyland Paris, alors que c'est plus compté comme étant des unités jouables en jeu, en fait. Donc c'est un peu dommage.
Et tu les trouves beaucoup dans les caches express aussi.
Et dans les caches express.
Ouais, tu les trouves à Affairs pour 2€ la figurine.
Et moi, je trouve que c'était de l'or qu'ils avaient dans les mains, mais qu'ils n'ont rien pu en faire, quoi, parce que leur jeu était claqué au sol, hein, fallait le dire. Et bah du coup, je vois que avec ce Speedstorm, ils ont réussi à se mettre d'accord pour faire en fait un bon jeu. Mais vraiment, je le dis au premier degré, c'est que je trouve que c'est vraiment un excellent jeu dans le sens où des clones de Mario Kart, il y en a déjà eu à droite et à gauche. Et là, prendre Disney et faire un clone de Mario Kart, c'est assez osé et c'est franchement ultra fun dans le sens où c'est un jeu qui va pousser l'agressivité. Et tu vas me dire que dans Mario Kart, c'est un peu pareil. Sauf que Mario Kart, tu peux customiser ton kart, etc. machin. Là, tu vas choisir un personnage qui va avoir un pouvoir dédié et ton kart, c'est juste du cosmétique et c'est tout, quoi. Et ce qui est génial, c'est que tu as des circuits qui se font très rapidement et qui vont te pousser constamment à aller de l'avant et à faire des takedowns comme tu peux le faire dans un Burnout. Donc, je sais pas si vous avez connu Burnout aussi.
Si, si. Non.
Dans Burnout, voilà, jeu de bagnole où ça consiste tout simplement à faire des takedowns, c'est-à-dire de rentrer dans l'art d'une autre bagnole pour la faire dégager du terrain, et vous gagnez de la puissance et du boost, et là, vous allez encore plus vite. Du coup, le jeu est ultra énervé. Et pour un jeu Disney, je me suis dit, mais c'est pas pour les enfants, c'est beaucoup trop violent. C'est vraiment ultra énervé. Donc, il y a tout un principe de power-up, comme dans Mario Kart, il y a des accélérateurs de partout, t'as des raccourcis qui fait que le jeu est loin d'être linéaire, et qui fait que tu peux avoir plusieurs embranchements sur un circuit, le tout en pressant la gâchette et les pédales à fond, quoi. Et vraiment trop bien, quoi. C'est une excellente surprise, mais la plus grande surprise, et c'est en fait presque pour ça que je recommande le jeu quelque part, au-delà du fait qu'il soit gratuit, bien fait, et que c'est un bon clone de Mario Kart, c'est les musiques. Donc là, je sais pas si je passerai un extrait pendant le podcast ou pas, c'est des remixes Eurodance des classiques Disney. Vous tapez Pirate Life version Eurodance, et c'est du miel, franchement.
C'est incroyable.
Donc voilà, donc forcément, je vais parler vite fait un peu des défauts. C'est que c'est un jeu qui va notamment, qui est gratuit, donc logique de free to play. Donc t'auras des personnages payants, t'auras des phases de ok, t'as débloqué tel truc machin, tel objet. Bon, c'est relou, quoi. Mais voilà, un jeu très fun, quoi. Donc est-ce qu'il y en a qui connaissaient le jeu ici?
Oui, je l'avais testé lorsque tu m'avais dit qu'il était gratuit, et là j'ai commencé la campagne, mais je suis pas... En fait, je trouve qu'il y a très peu de persos à l'heure actuelle, donc j'espère qu'il y en aura plus dans de futures mises à jour gratuites, j'espère. Ouais, mais j'ai... Bah, le problème, c'est que... Alors, la physique du jeu, j'ai un peu du mal... Même si je trouve qu'en effet, il y a un côté très Burnout et très Rocket League dans la maniabilité.
Ouais, complètement, ouais.
Oui, voilà. En termes de maniabilité, on est vraiment sur du Rocket League, mais ouais, mais c'est que je trouve le jeu pour l'instant un peu vide. Et ça me fait un peu peur pour la suite, vu déjà le système économique de base.
Bah, c'est ça, c'est que c'est un modèle un peu casse-gueule de base où tu te dis, bon, bah, c'est encore un énième free-to-play, etc. machin. Mais sur une proposition de jeu de course, bah pourquoi pas, vu que, comme tu dis, Rocket League existe, pourquoi pas. Mais oui, c'est que s'ils font un... Et c'est pour ça qu'en fait, là, tu vois, moi, je me réfère souvent à Steam pour voir les notes et ce qu'en pensent les gens. Et il est noté en moyen, ce qui veut dire que c'est pas très bon, mais que dans le sens où, c'est un jeu où il faut mettre des sous si tu veux jouer méta, quoi.
Ouais, mais... et puis surtout, j'ai pas compris le système de niveau par personnage, parce qu'en fait, ça peut être le jeu, je trouve. C'est... Non, mais c'est le but d'un Mario Kart ou même de la copie par Sega, c'est que juste tu débloques des personnages et des voitures, et puis ensuite tu peux jouer tranquille. Mais là, avec le système de niveau, si pour peu que le jeu multijoueur, alors je parle pas de trucs privés, mais tu joues avec des randoms. Tu vas te faire.
C'est ça, quoi. Pour moi, Mario Kart, ça reste convivial avant tout. Il faut que ça joue dans un canapé avec des potes, et voilà, quoi.
Voilà. Donc, à voir comment le jeu évolue pour savoir si c'est.
C'est ça. Erwan, toi, tu connais le jeu? T'as essayé ou pas du tout?
Alors, je connais. Je ne l'ai pas testé parce que pas le temps, hein, majoritairement.
Normal.
Mais écoute, j'attends impatiemment qu'ils ajoutent des persos de Star Wars pour avoir des remixes Eurodance de la Marche Impériale, là.
Oh, ça va être génial.
Franchement, s'ils le font, Je valide, parce que on a Pierre des Caraïbes, hein. Je veux dire par là que on a oui, Jack Sparrow, coup, mais on a Elizabeth Swann aussi. Donc
alors oui, Elizabeth Star Wars, Swann, la ressemblance, elle est pas frappante, hein, je trouve.
Et moi, je l'avais confondu avec Aurore au début. Je me suis dit,
oui.
Et pourquoi il y a des épées qui tournent autour d'elle, tu vois, ça c'est un rapport. C'était vraiment random, quoi. Et je me suis dit,
ah oui, la vache. Ah oui, c'est random personnage blond énervé.
Attends, les gens du podcast vont peut-être pas pouvoir voir, mais je vais essayer. Bah non, je l'ai pas installé. Non, mais c'est non, j'aurais bien, coup, bien fait un petit partage d'écran quand même. Parce que...
Pour revenir à ce que je disais, c'est que en plus Star Wars c'est pas forcément incohérent, sachant que Disney là ils ont bien intégré Star Wars quand même à leur univers.
Oh là là.
Genre sur leur frise chronologique des plus grands succès de Disney, ils ont intégré sans vergogne Star Wars épisode 4, l'Empire contre-attaque et tout ça.
Bah c'est ça, pour moi ils ont...
Et puis il y a des fortes probabilités au vu du trailer de Kingdom Hearts qu'il y ait du Star Wars dans le prochain Kingdom Hearts, donc...
Mais franchement, je ne demande que ça en vrai, hein, parce que une fois plus, ils ont de l'or dans les mains, mais ils en font rien, tu vois. Donc il n'y a plus
donc,
qu'à espérer
voilà,
qu'ils en fassent
quelque chose. Dark Vador pour avoir un remix Eurodance de La Marche Impériale.
Franchement, je veux... Et toi, Sam, du coup, t'as joué, pas joué ?
Alors non, j'ai pas joué. Au début, j'étais curieux, mais bon, pas plus que ça. Et tu m'en as dit beaucoup de bien, donc je serais grave chaud de le tester. Mais du coup, j'attends peut-être une occasion, genre, de le tester avec vous.
Ouais, bah bien sûr.
Parce que je me dis, why not ? Parce que tout seul, moyen.
Ouais, on est d'accord. De toute façon, la meilleure solution, c'est de le tester avec des potes. Et...
Ouais.
Oui. Bah, j'aime beaucoup l'ambiance qui a l'air de se démarquer des pistes avec un côté très... très terre à terre, tu le compares beaucoup à Mario Kart, mais en fait, de ce que j'ai vu, c'est assez loin, quoi. C'est un jeu de course, mais c'est plus
alors,
proche de.
Les maps, on est plutôt sur du double dash, si tu vois, en termes de.
Ouais, je pensais même à. Comment ? Je pensais même plus à Sonic All-Star Racing.
Oui, peut-être plus. Peut-être
moi,
plus.
Moi, je
l'ai
jamais fait.
Avec un côté. Parce que ça,
pas,
en fait, c'est fait contrairement. Contrairement à Mario Kart, ça a l'air d'être vraiment à fond sur le côté, c'est des courses, comme un peu comme on a des pistes de course dans notre monde. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans la DA du jeu.
Bah, c'est ça, et il y a un côté où tous les univers sont mis un peu à la même échelle, et du coup, ça fonctionne trop bien, quoi. Tu vois Agrabah en piste, avec une piste de bagnole, tu fais ça n'a aucun putain de sens, mais en fait, ça marche très bien. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est pour le monde de l'Olympe, qui vraiment
c'est vrai
a déjà...
Que... Ouais, elle est pas...
Déjà, elle est belle. Mais t'as un remix du gospel pur que je trouve dingue. Et franchement, ça serait la seule musique que je vous conseillerais d'écouter pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, quoi, vraiment. Voilà, bon, pour finir ma recommandation, pour tourner quand même, pour finir, je dirais que c'est un jeu qui est déjà gratuit, donc vous n'avez rien à y perdre. Que vous ayez Steam comme la Switch, comme la Xbox ou la PS5, le jeu est disponible sur ces supports-là. Et en plus de ça, c'est crossplay. Donc vous pouvez garder votre sauvegarde. T'es sur le PC, mais t'as envie de jouer après sur ta Switch, tu peux. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça.
Tu sais s'il tourne bien sur la Switch ?
J'ai testé et franchement, j'étais même plutôt surpris. Ça marche très bien.
Okay.
Mieux que Mortal Kombat.
Oui, bah forcément.
Ouais, là,
niveau graphisme, c'est plus adapté.
On est pas dans la même cour. C'est pas aussi beau que sur la version PC ou Xbox, ça c'est une évidence. Mais ça reste efficace. Ouais.
Après, il faut juste pas que ça fasse comme Multi versus Samuel et Erwan se rappellent de notre soirée Multi versus qui a été un sacré échec.
Ouais, Multiversus, ça marchait à moitié, et au bout de 2 mois, plus personne en parle.
Ouais.
Bah, je crois qu'ils ont arrêté le suivi, hein. Je crois qu'il n'y a plus rien qui sort.
Ouais.
En fait, c'est que le jeu était en phase anticipée, et ils ont dit, là, on fait une coupure énorme, et du coup, on va travailler dessus pour que le jeu sorte en 2024.
Surtout, ce qui a coupé le jeu, surtout, c'est que tout ce que. En fait, ça a été la bêta, et du coup, tout ce qu'on a débloqué dans la période de test, en fait, n'était plus dispo après quand le vrai jeu est sorti. Et que, par exemple, moi qui mainais Superman, il fallait que je rachète Superman.
Ouais. Ce qui est honteux.
Et puis, les sorties. Des nouvelles sorties de personnages, etc., elles étaient toutes liées à l'actualité, et c'était un peu relou parce que, notamment parce que l'actualité Warner c'était DC, quoi. Donc, au bout d'un moment, la moitié du roster c'était des persos DC, Et vas-y, viens, ils te disent, viens acheter Black Adam. Sauf que nous, on est allé voir Black Adam, donc non, on n'a pas envie d'acheter Black Adam.
Non.
On va éviter. Donc voilà, c'était du coup mon must, c'était Disney Speedstorm. Du coup, je vous invite à rester un petit peu dans le même univers. Hein. Donc Erwan, toi, apparemment, tu aurais quelque chose qui serait plus ou moins en rapport avec Disney aussi.
Eh oui, puisque moi, je peux vous conseiller, on parle de pilotes, et du coup, pilotes, eh bien, il y a les pilotes de voitures, mais aussi les pilotes de vaisseaux spatiaux. Oh. Et quoi de mieux pour les vaisseaux spatiaux que la saga Star Wars, n'est-ce pas ? Ma recommandation, c'est le jeu Star Wars Squadron, développé par EA, enfin, édité par EA et développé par Motive Studio, petit studio qui n'a pas fait grand-chose. Concrètement, ils ont fait la campagne de Battlefront 2 et Star Wars Squadron. Et ils ont fait aussi le remake de Dead Space.
Ok. Voilà.
Donc ils ont fait 3 jeux.
Ouais, c'est un bon CV quand même.
Oui, c'est pas mal. Mais du coup, Star Wars Squadron, alors en quoi ça consiste ? Bah, concrètement, c'est de la bataille spatiale pure et dure. Vous jouez ou la Nouvelle République ou l'Empire, vu que le jeu se passe après l'épisode 6. Donc il y a une campagne où vous alternez tour à tour l'escadron Titan, donc l'escadron de pilotes des restes de l'Empire, ou l'escadron Vanguard de la Nouvelle République. Et du coup, c'est vraiment un simulateur de vaisseau spatial. Vous devez gérer votre vaisseau, équiper, avoir des améliorations comme vous voulez dessus, augmenter vos boucliers ou avoir moins que vous préfériez les réacteurs, etc. Et en combat, vous devez alterner pour augmenter les réacteurs, augmenter les tirs, etc. Et c'est vachement cool en termes de simulation. Et surtout, ce qui est très bien, c'est que si vous avez la version PC ou PS4, il est compatible VR. Et l'interface, et ça se voit parce que le jeu a une interface de jeu VR, hein, concrètement.
Quand je vous êtes pas... Le jeu a été conçu pour la VR à la base, je crois. Mais...
Ah bah, je pense que si, parce que l'interface concrète, c'est soit vous êtes en vaisseau et du coup ça bouge, soit vous êtes au sol et il faut vous cliquer pour aller sur les différents endroits pour parler aux gens. Donc c'est vraiment une interface de jeu VR. Après, je sais pas si ça a été pensé pour la VR au départ, mais j'ai malheureusement pas pu le tester en VR. Mais ça doit être très fun en VR. Après, très concrètement, problème principal du jeu est que le jeu est sorti en 2020 et que là, à l'heure actuelle, nous sommes en 2023, les développeurs ont arrêté le suivi du jeu. Du coup, il n'y a plus de contenu qui sort, du coup, les serveurs sont vides. Voilà.
Ouais.
Du coup, c'est dommage parce que le jeu est un peu fun, mais actuellement, bah, vous allez passer. La dernière fois, j'ai passé 45 minutes à trouver une partie, quoi.
Ah merde, ah ouais, c'est chaud.
Pour jouer 15 minutes.
Oh putain.
Voilà.
Et c'est uniquement multijoueur ?
Bah t'as la campagne, mais la campagne tu l'as fait une fois quoi.
Je crois que tu as un mode contre des bots justement pour en gros t'entraîner. Et moi c'est ce que je veux dans tous les putains de jeux multijoueurs, hein, que ce soit Speedstorm comme Squadron, c'est que tu aies la possibilité de rajouter des IA. Parce que pour moi c'est essentiel que tu aies une façon de t'entraîner si t'as peur de te frotter à des gens qui ont une mauvaise connexion ou justement qui sont pas là en fait.
Oui, après aussi l'avantage du mode IA du coup est que tu peux jouer avec tes potes du coup à plusieurs pour faire des piou-piou spatiales. Mais le problème étant du coup que le mode IA étant un mode entraînement, du coup tu débloques pas de trucs pour pouvoir améliorer et personnaliser ton vaisseau. Enfin, parce que toutes les améliorations sont des améliorations cosmétiques, hein, les améliorations in-game tu les pas équipes avant le jeu concrètement, enfin avant ta partie. Mais du coup, le mode IA ne te permet pas d'avoir des pièces pour custom tes vaisseaux, et c'est dommage. Mais,
On a tendance à oublier que la force d'un Smash Bros. Ou d'un Mario Kart, c'est que les jeux sont à la base pensés pour être solo, entre guillemets, enfin solo ou multijoueur local, avant d'être aussi développés en ligne, et que c'est aussi ce qui fait que les jeux marchent beaucoup. C'est que les gens vont pas s'y désintéresser parce qu'ils ont de quoi y jouer, même hors ligne.
Bah là, après, le jeu est vraiment... je pense que moi, ma théorie, c'est que c'est juste un jeu qu'ils ont développé après Battlefront 2, vu que le mode bataille spatiale de Battlefront 2 n'a pas super bien marché.
C'est qu'il est pété, hein, surtout.
Oui, aussi. du coup, c'est aussi un autre défaut du jeu, qui est que pour moi, du coup, comme le jeu se limite à Empire vs Nouvelle République, bah, concrètement, les vaisseaux, on n'a que des chasseurs TIE et les vaisseaux traditionnels d'Alliance Rebelle, donc X-Wing, A-Wing, V-Wing, etc. On n'a pas des trucs un petit peu rigolos comme jouer le Slave One ou des trucs comme ça. Et ça, c'est un peu triste.
Bah, c'est qu'ils voulaient rester en raccord aussi avec la timeline, vu que ça se passe juste après le 6. Comme tu as dit. Donc, il y a une volonté, je pense, de suivre tout un pan de Star Wars qu'on ne suit pas en général. C'est les pilotes, justement. Et c'est ça que moi je trouve intéressant, et le parti pris justement de faire un jeu de vaisseau où t'es constamment à la première personne, je trouve ça vraiment osé, parce que du coup ça veut dire que tu vas pas jouer sur une visibilité en dehors de ton vaisseau, où tu vas regarder aux alentours, etc. Parce que on va être d'accord que certaines formes de vaisseaux dans Star Wars sont un peu bizarres en termes de design, tu te dis...
Ouais, bah, c'est pas petit.
Le console, ouais, c'est... Putain, c'est moi je l'aurais pas mis comme ça la Carlingue, putain, c'est
la merde. Fait une tumeur. Enfin,
là, avec les cerises, je vois rien, putain. Et ils assument au bout le truc, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que vraiment, tu peux, comme tu disais, la partie cosmétique, c'est tu peux complètement personnaliser le cockpit, rajouter des bobolettes, machin, c'est moche, mais tu t'en fous, quoi. Et, mais le fait est que tu sois vraiment à fond dans le vaisseau, et constamment en vue à la première personne, bah, c'est putain de osé, quoi.
Et bah, ça tombe bien que tu parles de la vue à la première personne, parce que justement, c'était une critique que beaucoup de gens avaient fait à l'annonce et au premier trailer, qui était que justement, bah, ça a imposé la vue première personne, et que du coup, tu pouvais pas avoir ta vue troisième personne avec ton vaisseau, comme tu avais eu dans tous les jeux de vaisseau pré-Disney.
Ouais.
Et en fait, finalement, bah, c'est assez justifié par le gameplay, et ce serait débile d'avoir une vue en troisième personne pour le coup.
Bah, c'est ça.
Parce que ça niquerait le côté simulation, parce que là, le jeu, c'est vraiment une vraie simulation. Mais quand une vraie simulation dans le sens où ça respecte le lore et que les chasseurs TIE n'ont pas de bouclier. Hein.
Mmh.
Ce qui fait que du coup, au niveau équilibrage entre la rébellion et l'Empire, ça fait que l'Empire tape globalement plus fort.
Hein. Ouais, voilà, il trouve une certaine cohérence par rapport à l'architecture des vaisseaux en se disant bah, c'est que quand tu vois un chasseur TIE, tu te dis putain, mais jamais ce truc, ça va voler ou ça va passer entre des débris de vaisseaux. Mais ils arrivent à trouver un équilibrage par rapport à ça et du coup. Moi, je trouve que c'est un peu une des forces aussi du jeu, c'est qu'ils arrivent à justifier le tout par rapport au gameplay. Et ça fonctionne
c'est
bien.
C'est ça. Quoi. Et que concrètement, chaque faction a 4 vaisseaux et chaque vaisseau ne joue pas tout à fait pareil.
Ouais, en plus. Ouais.
Et qu'après, même dans les vaisseaux, tu peux toi remodifier tes armes et tes composants, etc. pour que tu joues vraiment à la manière dont toi tu joues. Je sais que moi, j'ai un gameplay beaucoup plus agressif, donc je booste à mort les propulseurs et les tirs et, en laissant un peu de côté le reste.
Oh, c'est la meilleure strat en vrai. Ok, ok. Bah, du coup, est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à Squadron ici ?
J'ai testé et le gameplay m'a beaucoup frustré, mais je pense qu'il faudra que je reteste. Ouais. Faudra que je reteste plus tard lorsque j'aurai du temps.
Pas de souci. Après, je rebondis sur ça en disant que le jeu est vraiment trouvable à pas cher, que ce soit sur console.
Oui. Ah oui, étant donné que le suivi est fini, maintenant le jeu il vaut plus rien. Hein.
Bah, c'est ça quoi.
Sur Epic, il était à. Avec certaines promos, il tombait à moins de 10 balles. Donc
bah, il a été filé gratos sur Epic il y a moins d'un an.
C'est vrai que je l'ai, du coup.
Et il est sur le Game Pass au cas où. Voilà, sachez-le.
Ouais. Oui, j'ai eu 3 mois de Game Pass là par Discord, il faudrait que j'en profite.
Surtout que la campagne, elle se fait, elle n'est pas trop longue en plus. Ça rajoute pas tant de choses non plus. On voit certains personnages qu'on connaît. Hein.
Ah, c'est surtout que la campagne, t'apprends à jouer, donc c'est bien.
Oui, c'est ouais, ça. C'est ça. La campagne te force à alterner entre les différents types de vaisseaux et différents types d'objectifs, donc c'est cool.
Ce qui devrait être le but d'une campagne dans un jeu multi, c'est apprendre le jeu.
Absolument.
Oui.
On est totalement d'accord.
On s'en fout, Overwatch 2, il n'y a pas de campagne du tout.
Arrête. Si. Alors si, ça existe, mais ça s'appelle Exoprimal, voilà. Que je réserve
la
pour
campagne, vous voulez jouer à la campagne d'Overwatch 2, ne jouez pas Overwatch 2.
C'est exactement ça. Voilà, Exoprimal que je garderai peut-être pour un prochain épisode. Que je vais noter d'ailleurs. Voilà.
Ah, du coup, sinon moi j'ai pas joué au jeu. Voilà. Mais j'ai un peu suivi les retours qu'il y avait, j'étais intéressé par le côté un petit peu intéressé par le côté VR et surtout le fait que d'après les retours que j'ai vus apparemment c'est un des rares vrais jeux qui marche vraiment bien en VR. Vrai jeu entre guillemets, genre pas c'est pas un petit jeu qui a été développé pour la VR, c'est un jeu classique et VR et apparemment la VR marche vraiment bien parce que vu que t'es en première personne dans le vaisseau, il n'y a pas de motion sickness parce que ton cerveau comprend que t'es dans un véhicule et du coup ça pour lui ça lui paraît normal parce que toi ton personnage il est censé ne pas bouger et du coup comme ton corps ne bouge pas bah ton cerveau pour lui c'est normal.
Ouais, totalement, ouais.
Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que c'était apparemment ça avait l'air d'être vraiment bien pensé pour l'aspect VR.
Bah, je trouve que de base c'est un jeu qui était bien pensé à tous les niveaux, que ce soit au niveau présentation, quand tu vois comment ils mettent en avant les personnages, que ce soit l'Empire comme les rebelles, quand tu vois comment ils essaient de justifier justement tout ce qu'on a dit auparavant par rapport au design et aux mécaniques de gameplay, que le jeu il a la possibilité d'être joué contre des IA si malheureusement il n'y a personne en ligne, que tu as un mode solo qui quand même est intéressant mais sans plus quoi. C'est, tu l'as fait, après t'as oublié, mais tu vois que ça amène une certaine profondeur du côté Empire comme Rebelle. Et en plus il est jouable en VR, ce qui est je pense le rêve de pas mal de gens, de se dire ah tiens je suis dans un vaisseau Star Wars. Et des jeux Star Wars j'en ai hein, sur l'Oculus, et qui sont pas aussi immersifs que ce squadron là, et je pense que vraiment c'est au moins à faire une fois clairement en VR si on a les moyens forcément. Mais voilà, comme je disais, le jeu est dans le Game Pass, il coûte vraiment que dalle, donc voilà, je pense que Erwan, tu as fait une excellente reco.
Eh ben merci. Et puis écoutez, il y a très peu de fanservice dans le jeu, mais il y a un personnage pour ceux qui ont regardé Rebels qui est là tout le long et que vous serez content de revoir.
Oui. Voilà.
Oui.
Pour les fans. Et c'est vraiment un jeu pour fans de Star Wars. Voilà, on sait jamais. Mais si vous aimez voilà. Les jeux de pilotage,
si vous avez pense. Trouvé que le combat spatial dans Battlefront 2 était claqué au sol, bah jouez à Squadron.
Et en parlant de pilotage claqué au sol, est-ce qu'on parlerait pas de Sam et de Saroko et de son must?
Comment ça? Mais je vous emmerde, mon cher ami.
Ben non, défends ton pouvillon, vas-y.
Vas-y.
Allez, alors...
C'est bien, alors que c'est pas vrai.
Bien sûr que si. L'an dernier, en mai, est sorti la suite d'un film un peu attendu avec un acteur un peu connu qui s'appelle Top Gun Maverick.
Ah, je crois que t'allais dire Jésus, je sais pas.
Ouais, bah Jésus, ouais.
La tentation du Christ 2.
C'est ça.
Donc, ouais. Donc moi, mon choix, c'est porté sur Top Gun Maverick.
Ok.
Que j'ai vu au cinéma. Alors il faut savoir que quand je suis allé voir Top Gun Maverick, je n'avais pas vu Top Gun.
Oh, ok.
J'étais intéressé par le film. Déjà, en vrai, je dois avouer en grande partie pour sa VF, parce que les deux comédiens principaux, je les aime beaucoup. Mm-hmm. Donc la VF de Tom Cruise, dont j'ai perdu le nom là tout de suite, et Donald Renew sur le... Jean-Philippe puis Martin, pardon, et Donald Renew, du coup, sur les deux persos principaux. Mmh. Et donc j'étais très intéressé, je suis allé voir le film en VF, et j'ai été très agréablement surpris, comme beaucoup de gens, je pense, en fait, parce que le projet était un peu étrange, il se plaçait dans ce délire de faire des suites à des films des années 80 pour surfer sur la nostalgie, tout ça. On fait revenir Tom Cruise, c'est un des films qu'il a beaucoup fait connaître. Donc le projet, moi, sur le papier, le projet, j'en avais rien à foutre. Mais très agréablement surpris, parce qu'ils ont confié ça à un bon réal, en fait. Du coup, ce n'est plus, du coup, le premier étant réalisé par Tony Scott, donc pas n'importe qui. Fallait réussir à prendre la relève, et donc ils ont confié ça à Joseph Kosinski,
ah, ouais.
Qui est réalisateur de notamment, alors de Oblivion, mais je l'ai pas vu, et de Tron Legacy.
Ouais.
Donc Tron Legacy, qui est donc un film très moyen sur le scénario, mais très intéressant dans sa réal, je trouve. Et en fait, je trouve qu'il a fait du très bon travail, parce qu'il a réussi à vraiment mettre le film dans l'ambiance. Un peu dans la bonne continuité par rapport au premier, que j'ai vu après du coup, et tout en lui donnant une patte particulière. Et voilà, je trouve que c'est un film très chouette, parce qu'il est surprenant sur pas mal de points. En fait, il va à l'encontre un peu de ce que je pouvais attendre de lui en tant que film hollywoodien. C'est-à-dire qu'on a des bons personnages féminins, par exemple.
Ah, yes.
Tom Cruise, je crois que ça doit être le seul film que j'ai vu récemment où Tom Cruise assume son âge. autant physiquement que dans les propos. Donc oui, donc okay. le film raconte donc l'histoire de Pete Mitchell, alias Maverick. Donc pilote, après tout ce qu'il a vécu dans le premier et tout ça, qui maintenant fait des essais du coup sur des nouveaux avions, Et en fait, il fait des essais notamment avec des avions drones en fait pour essayer de. Lui, il est un peu de la vieille école quoi, donc il est pas pour remplacer des pilotes. Et il se fait appeler par son ancien collègue dont j'ai plus le nom. Désolé, je vais me remettre.
Meisteller, Bradley.
Non, justement, son ancien collègue Iceman.
Ah, Iceman, oui, avec Val Kilmer, du coup.
Voilà, donc joué par Val Kilmer dans le premier et dans celui-ci. Et pour former une nouvelle équipe, en fait, une nouvelle génération de pilotes. Et donc sur une mission particulière qui est de détruire un stockage d'armes ennemies.
Ok.
Et alors, je suis. Parmi les différents points sur lesquels je pensais pas aimer, du coup, il y a le Tom Cruise, je suis pas très fan et je le trouve très bon autant dans le jeu que dans sa place dans le film, c'est-à-dire que c'est le personnage principal. Mais c'est pas comme tu vas avoir dans les Missions Impossibles par exemple où c'est vraiment c'est le héros quoi dans les Missions Impossibles là c'est vraiment le héros.
Ouais.
Et là s'il joue un personnage pas gris mais voilà enfin voilà un personnage principal mais avec des bons des mauvais points enfin je trouve ça très sympa.
Un anti-héros quoi si on peut dire ça comme ça.
Non, pas un anti-héros, mais c'est juste un personnage bien écrit, quoi. Il est pas que positif.
Ah ok, ouais, d'accord, ouais, je vois.
Et puis il y a beaucoup le côté l'armée, parce que je suis pas forcément très fan du concept de l'armée et de mater des films sur l'armée, voilà. Mais c'est un truc qui marche déjà bien dans le premier Top Gun. Et dans celui-ci, ça marche aussi très bien parce que c'est pas un film sur l'armée, c'est un film sur ses personnages en fait. La preuve étant que on sait pas qui est l'ennemi, on sait jamais mentionné quel pays c'est l'ennemi, etc. C'est juste qu'ils ont un objectif, ils doivent y arriver et arriver à cet objectif, ça va permettre de réussir à régler des problèmes même qu'ils ont eux personnellement en fait. Et c'est beaucoup là-dessus que c'est basé, notamment parce que donc il y a le personnage de comme tu disais tout à l'heure, de Miles Teller, qui est donc le fils de Goose, son partenaire qui est dans le premier film, et qui lui en veut parce que Maverick a bloqué son entrée à une école de pilotage pour éviter que, parce que par peur en fait de le perdre comme il a perdu son ami dans le premier, et Rooster, donc le fils lui en veut beaucoup pour ça.
Okay.
Et dans les bandes annonces, la façon dont c'était vendu, il y avait une certaine haine que j'étais en mode allez, ça va être cliché, il va lui reprocher la mort de son père et tout. Et en fait, non, dans le film, tu comprends que c'est vraiment développé, que c'est vraiment qu'il a raison de lui en vouloir pour ça parce que Maverick a vraiment fait a vraiment merdé là-dessus. Mmh. Et ça va vraiment être développé progressivement. Et c'est trop cool parce que du coup, dans le film, t'as cette relation qui évolue jusqu'à la fin où après l'opération ils se retrouvent tous les deux crash et à devoir essayer de rejoindre le porte-avions en s'infiltrant dans la base ennemie et tout, et tu les vois collaborer ensemble. C'est vrai, leur relation est vraiment très cool, et même tous les personnages je trouve sont très cool parce qu'au début tu vois la tête de la classe et tu te dis ok, alors lui ça va être la tête brûlée, lui ça va être tel truc, et en fait tous les personnages sont, je trouve, vachement humains en fait, dans le sens où ils ont un peu ces rôles là mais c'est pas des clichés, c'est des vrais personnages, ce sont tous des vrais personnages.
Okay.
Avec des supers acteurs,
ça me rassure.
Et le film, voilà, le film est très cool et il est très très simple en fait dans son approche de ses personnages, de son intrigue, et il est vraiment très cool. C'était vraiment une très grosse surprise, il a fait des super scores en plus.
Ah, je crois qu'il a bien marché, ouais.
Ouais, je crois qu'il a super bien marché, je crois que c'était...
Ouais, ça a sauvé le cinéma et du coup ça a donné un gros pic d'ego à Tom Cruise.
Oui, bon, ça c'est le souci avec Tom Cruise, mais bon. Mais ouais, voilà, le film a super bien marché et je l'ai vu deux fois, parce que du coup je l'ai vu une première fois à sa sortie, donc je suis allé le voir en VF comme ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, quelques mois plus tard, Pathé a décidé de faire une soirée spéciale Double Features.
Oh.
En passant Top Gun puis Top Gun Maverick.
Ok, et du coup t'as pu le voir.
Donc ouais, Donc j'y suis allé avec Erwan ici présent.
Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce classique qu'est Top Gun? Parce que je pense que les gens qui vont voir Top Gun Maverick, c'est parce qu'il y a forcément référence le premier, que beaucoup le citent comme étant un grand film de son époque, que c'est un des rares films représentant aussi l'aviation, l'armée de l'air hein, aussi, c'est quand même pas rien, tu vois. Et c'est vrai que... bon.
Avec Hot Shot.
Avec Hot Shot, je préfère largement plus. Premier degré.
Mais non, mais Hot Shot, c'est normal, Hot Shot, c'est une parodie de Top Gun.
Oui, c'est parfait, Hot Shot. Du coup, ouais, t'en as pensé quoi, toi, du premier?
Eh ben, je trouve que Top Gun Maverick est mieux.
Ouais.
Après, peut-être aussi que c'est une question de...
d'époque.
De génération.
Ouais.
Parce que... enfin, sur certains points, c'est une question de génération, parce que de nos jours, Top Gun Maverick... passe mieux que Top Gun sur quelques points, mais j'étais agréablement surpris parce que je l'ai quand même trouvé vachement bien. Après, comme je disais, Tony Scott, c'est un très bon réal, les acteurs sont bons, et pareil, genre, je pensais vraiment que les personnages allaient être bloqués dans certains clichés, surtout pour l'époque, parce que le premier Top Gun, c'est 86, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, j'étais agréablement surpris. Aussi par la réalisation, par les scènes de combat, etc. Que je me suis dit, ouais, Top Gun Maverick, ils ont réussi à avoir entre les effets spéciaux et les petites caméras qu'on peut embarquer maintenant. Ils vont réussir à avoir des trucs que c'était pas possible en 86. Mais en fait, en 86, ils se démerdaient déjà super bien pour les effets, etc. Non, non, vraiment, Top Gun, très bon film. Top Gun Maverick, excellent film, je dirais.
Ok, d'accord, ah ouais, à ce point-là, ouais. Ok.
Enfin, dans leur
proposition.
Dans leur proposition, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas, je vais pas aller dire que c'est un nouveau Citizen Kane. Enfin voilà, mais je trouve que c'est un film qui est super cool parce que, notamment quand tu le compares par rapport à d'autres films hollywoodiens. Du même genre, dans le même truc de faire une suite à un film comme ça. Déjà, c'est très cool parce qu'il peut se regarder très très bien tout seul. T'as pas besoin d'avoir vu Top Gun parce que à part Maverick, t'as quasiment que des personnages originaux.
Ouais.
Ouais, il y a Iceman et Maverick qui sont là et c'est tout. Et après, sinon, en fait, tous les quelques points que t'as besoin de savoir du premier film sont réintroduits. Donc ça marche vraiment bien en fait. T'as pas de fanservice. Et même les quelques moments qui référencent le premier sont assez sont touchants. C'est-à-dire, même quand t'as pas vu le premier, c'est-à-dire que t'as une scène où il va voir Val Kilmer. Et Val Kilmer, il a une. Je sais plus ce qu'il a, mais il a une grave maladie en fait maintenant.
Ouais.
Et du coup, ils ont inclus ça dans le scénario.
Ok.
Et ouais, son personnage, du coup. Je crois que c'est ça. Et du coup, ils ont inclus ça, en fait. Donc, son personnage est malade aussi. C'est très bien inclus dans le scénario, je trouve. Et ça donne une scène qui est très émouvante parce que t'as aucune musique. T'as vraiment juste les deux qui se regardent. Et Iceman, il parle en tapant à l'ordinateur, du coup. Et Tom Cruise lui répond... Enfin, Maverick lui répond à l'oral, comme ça. Et en fait, à la fin, il finit son discours en lui parlant, en lui disant une phrase à l'oral. Et je trouve que ça fait un truc super fort. Surtout sachant qu'en vrai, c'est très douloureux pour lui de parler comme ça, donc je trouve ça très fort en fait, cette scène entre eux.
Et ce qui fait que moi j'avais peur à la base de ce Top Gun Maverick, c'est que, comme tu as dit, c'est des films qui font écho à des films sortis il y a 30 ans de cela, tu vois, genre dans les années 80, tout ça, et c'est vrai qu'on peut sortir une certaine redondance, un besoin de surfer sur le besoin de la nostalgie, tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, moi je l'ai pas vu Maverick, mais je pense que je me le regarderai un jour, parce que déjà Top Gun de base, je l'ai vu, mais c'est pas un film qui me parle pour moi perso, ça me parle pas quoi. Mais j'ai souvent entendu parler de gens, même les plus réfractaires, disons, c'est le haut du panier de ce que peut faire Hollywood en fait. C'est vraiment incroyable, et forcément on est sur le thème pilotage. J'ai surtout retenu que les phases d'avion sont complètement tarées.
Ouais. Mais c'est ça qui est cool, c'est que le film il se limite même pas à ça. Hein. C'est même pas le seul intérêt. Moi, ce que j'en retiens beaucoup, surtout, c'est les phases d'avion sont très cool, mais surtout c'est un film qui est simple et qui est très ça va être cliché, mais qui fait très très humaniste en fait. Il est très orienté ses personnages, vers la simplicité des relations entre ces personnages. T'as pas de clichés, t'as pas d'intrigues forcées. c'est vraiment juste des personnages qui se rencontrent, qui ont des fois des soucis, qui ont des relations, qui sont amoureux, des trucs comme ça. Et c'est réglé ensemble et je trouve ça vraiment très cool.
Ouais, il y a un besoin d'humaniser ces personnages-là, bah, surtout dans un cadre militaire où justement, dans les années 80, bah, c'est vu comme des bœufs ou juste comme des montagnes de muscles ou des mecs...
Bah, la scène du volet dans le 1, quoi, c'est...
Ouais, voilà, c'est ça.
Elle est dans le 2 aussi.
Ah, dans le 2, elle est... Non, alors, elle est super bien utilisée dans le 2.
Ok, d'accord.
C'est pas du volet qu'ils font.
Bah, ah, voilà, c'est pas du volet.
Il y a une scène similaire. Dans le 2, il y a une scène similaire, en fait, où il leur fait jouer à un jeu...
Du hockey sur glace.
Un espèce de... Comment ça s'appelle ? Un espèce de ballot prisonnier, un truc du genre. Sauf qu'en fait, il leur fait jouer avec deux balles pour leur apprendre à la fois à gérer la défense et l'attaque.
Ah ouais.
Pour quand ils sont en dogfight.
D'accord, ok.
Et du coup, t'as cette scène qui a donné d'ailleurs la chanson qui est tirée du film, qui est beaucoup passée à la radio, je crois, et qui est très cool. Et du coup, c'est une scène qui est vraiment chouette. Et le film, de façon générale, est très feel good en fait aussi. Cette scène très précisément, mais même le film, tu sors du film, t'es content quoi, vraiment. Pour, je pense, les raisons que je disais quoi, les personnages qui, ça tire vers le positif en fait quoi aussi. Ça qui est très chouette.
Du coup, qui c'est qui l'a vu ici
Bah Erwan, du coup.
Oui, moi-même, je l'ai vu.
Et alors?
Alors, moi, en vrai, j'ai trouvé ça très cool, très sympa et tout ça. Après, moi, j'ai toujours ce problème que j'ai beaucoup de mal avec Tom Cruise, du fait leader de secte, sombre bail, tout ça, tout ça. Et que, mais bon...
Il a pas arrêté la secte, là, justement
Ah non.
Ah non, c'est Travolta qui s'est barré, c'est pas lui.
Oui, c'est ça. Non, Tom Cruise, il est top 2 de la Scientology, il va pas partir maintenant.
Ah, hein. Ah ouais, merde, d'accord. Ouais, il se dit... Il est
vraiment juste derrière après le grand patron de la Scientologie.
Ah oui.
Et okay. Voilà. Mais après le film est très sympa et en vrai moi c'est triste mais en vrai moi ce que je retiens du film surtout c'est que je veux que le réalisateur réalise un film Transformers sur Starscream juste pour avoir des beaux combats d'avion avec des Transformers. Voilà.
Ouais, ça,
j'aime les Transformers et j'aime les robots.
Sachez que là, on a un morceau de personnalité d'Erwan qui a débordé du vase là et qui s'est présenté. Mais on en reparlera, t'inquiète pas, on en reparlera dans d'autres
épisodes. Non, mais en vrai, ça m'a aussi fait réaliser que on n'a pas assez de vrais bons films avec des beaux dogfights. Et que c'est peut-être un truc qui manque aussi, de manière générale, je trouve, à la saga Star Wars. Pour revenir justement sur les trucs de. Parce qu'on a un dogfight très sympa dans Rogue One. Et un qui est très cool en ouverture de l'épisode 3, mais on n'a pas de vrai bon dogfight dans la saga Star Wars, c'est un peu triste.
C'est vrai, mais peut-être parce que les effets spéciaux, ça coûte moins cher que des vrais avions de chasse, je suppose.
Après, pour revenir sur Top Gun Maverick, oui, le film est bien, les personnages sont cool, le scénar est sympa, et voilà.
Ok, et toi Pierre, tu veux...
Après,
non, je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu le premier Top Gun non plus, c'est dans ma liste immense de films à voir.
Okay.
C'est une très longue liste.
Ah, la mienne aussi.
Et Sam, tu voulais dire ?
Oui, non, je disais après juste qu'on se méprenne pas. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec Tom Cruise. Hein. Je trouve que c'est une effroyable. Enfin, de ce que j'en ai entendu, je trouve que c'est une effroyable personne. Mais, pour moi, ça n'entache pas la qualité du film vu que ça ne ressort pas et qu'il joue très bien dedans.
Si on préfère le Tom Cruise, vite fait, parce que bah, c'est quand même l'acteur qui est au cœur de tout ça. Là aussi, une des critiques que j'ai vues, parce que pour moi, je voulais d'abord qu'on parle du film, de ce qu'il en est, etc., de son contenu. Mais c'est vrai que Tom Cruise, c'est un peu un messie où tout tourne autour de lui, où c'est vraiment l'ego trip à son paroxysme. Ouais. Et il y a un truc que moi, j'ai remarqué, parce que j'essaie de pas trop m'intéresser aux showbiz, les infos... un peu dans les coulisses, machin, etc. Mais c'est quand même important pour savoir bah, si telle personne n'est quand même pas un problème à risque. Hein. Voilà, on va pas balancer de nom. Mais il y avait des échos qui montraient notamment que Tom Cruise aimait bien aussi faire en sorte de respecter le boulot de certains, etc. Et c'est pour ça qu'il y avait des vidéos pour je sais plus quel film qui a été balancé en disant... regardez, il s'énerve avec telle personne et tout parce que il y en a qui considèrent mal les autres employés, machin, etc. Du coup, voilà. Ou alors c'était pour une question d'hygiène, de gestion de tournage, etc.
Mais ça n'empêche qu'en fait. Le Covid, il s'est agacé parce qu'il y en a qui ne voulaient pas porter les masques et tout. Et ça, bah, t'as le droit de. Ouais, bah, ça va.
Ouais, voilà.
Ouais, après il est producteur, donc il est producteur exécutif, donc il y a aussi le fait que s'il se passe des choses, ça lui retombe dessus. Donc,
ok, voilà. Bah, merci de donner un peu plus de précision sur la situation. Je sais plus en quoi c'était en rapport, mais je sais qu'il y avait ce truc de le mec pousse à gueulante, donc forcément, quand quelqu'un gueule sur Internet, bah, tu vas avoir des gens qui vont dire « Ouais, c'est un gros con, non mais il a pas tort, etc. » Mais ce que j'ai surtout remarqué avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien prendre en main les choses, et il suffit de voir... La vaine tentative qui a été que de créer un univers partagé qui est le Dark Universe,
oh oui, bah oui.
Avec la momie. Donc on parle pas des premiers avec O'Connell, tout ça, on parle bien de la momie quelle année.
Le premier momie, c'est avec Boris Karloff surtout.
Oui. Mais là on parle de celui avec Tom Cruise, du
oui,
Dark
non,
Universe Part
1. Non, oui, c'est un nouveau reboot de momie, oui, celui avec Tom Cruise sorti en 2017. Dark
ouais.
Universe partie 1 sur 1.
Voilà. Voilà, il y avait une vaine tentative en gros de créer un univers partagé sur les monstres parce que Marvel a lancé un cinematic universe, du coup il y en a beaucoup qui essayent mais c'est compliqué, et faire un Dark Universe où ça jouait sur les monstres mythologiques Frankenstein, l'homme invisible, etc. Bah oui, c'est une idée. Le problème c'est que la momie, bah déjà le film a été juste pris en main par Tom Cruise, et c'est limite si on voit pas plus Tom Cruise en gros sur l'affiche que le titre du film qui est la momie, en fait. C'est un personnage qui a vraiment pris la main sur le film et qui a constamment décidé de tout tourner lui-même quasiment, quoi. Et c'est là le côté dangereux en fait que j'y vois de la personne par rapport
après,
à tout ce qu'on
raconte. Il a fait ça avec la momie, mais si le film a pu sortir avec des effets spéciaux qui marchent à peu près, c'est aussi grâce à lui, parce que les studios n'avaient plus rien à foutre sur la fin. Donc t'es en mode, alors il a sauvé le film, mais maintenant c'est devenu un film ego trip. Est-ce que c'est le meilleur chose? Peut-être pas.
C'est pour ça que Tom Cruise travaille toujours avec les mêmes réalisateurs en fait.
Oui, moi aussi.
C'est lui qui sélectionne ses réalisateurs sur ses projets, etc. Et...
Bon, après, c'est pas le seul, donc.
Oui, non, c'est pas le seul. Il y a The Rock aussi, mais...
Oui, mais...
Ah, ouais, encore, c'est autre chose, après.
Tu vois, la différence entre The Rock et Tom Cruise, c'est que les deux sont problématiques un peu humainement, mais Tom Cruise, il reste moins problématique cinématographiquement, disons. Artistiquement, disons.
Ouais, il fait des meilleurs films.
Complètement d'accord, ouais. On te regarde, The Rock.
Mais ouais, après, genre, juste vite fait, plus sur le Dark Universe, je considère dans tous les cas que leur façon leurs idées de gérer au niveau du casting étaient problématiques à ce niveau-là, dans tous les cas. C'est-à-dire que si dans ton premier film, t'as Tom Cruise, dans ton deuxième, tu veux avoir Johnny Depp parce que c'était ce qui était prévu pour l'homme invisible.
Oui.
Non, mais c'est pas problématique de point de vue social-politique, même si du coup, au final, si. Mais c'est surtout que ça marchera pas parce que c'est des acteurs qui sont connus vraiment en tant qu'acteurs, qui sont là pour être mis en avant. Et dans un univers cinématographique, ça marche pas. Et c'est pour ça que je ne crois absolument pas à la volonté d'avoir un caméo de Tom Cruise en Iron Man dans le MCU.
Ah,
parce
ouais.
que jamais il acceptera de s'intégrer dans un univers comme ça s'il peut pas avoir la main dessus.
Ouais.
Et Disney lui laissera jamais avoir la main dessus. Et en tant que jamais il voudra faire un caméo, parce que s'il apparaît dans un film, c'est qu'il faut que ça soit lui la star, quoi.
Là-dessus, on est totalement d'accord. Eh ben, merci en tout cas, Sam, pour ta reco.
Si, dernier truc sur le Dark Universe, regardez le trailer qui était la première version du trailer de La Momie qui avait leak.
Oui.
C'est incroyable. Il y a une version du trailer qui a leak sans les effets sonores ou la musique. Et elle est folle. Il est fou ce trailer, parce que du coup, t'as juste t'as les scènes et t'as pas les effets sonores ou la musique, donc t'as juste les personnages qui font. C'est très très drôle.
J'ai jamais autant chialé de rire, je crois, devant une vidéo. Parce que
je l'ai jamais vu.
Regarde-le après l'enregistrement, il est incroyable.
Je le mettrai en lien dans le
podcast.
Ouais,
alors,
ouais.
Parce qu'en plus, je suis un très grand fan des films de monstres et j'ai payé pour voir La Momie avec Tom Cruise, et c'est le seul film, où je regrette d'avoir payé. Sachez-le.
Ah oh. Trop triste.
Ah non, mais on fait tous des erreurs dans la vie.
Exact. Eh bien, merci Sam, du coup, pour ta reco. Top Gun Maverick. Et du coup, peut-être que au lieu de rester dans le ciel, on va aller vers les étoiles. Alors Pierre.
Oh, cette transition. Du coup, bah, moi je vais vous parler de... Bah, toujours dans la veine des pilotes, on va revenir aux vaisseaux spatiaux, mais je vais vous parler d'un film.
Le voilà, Albator, le capitaine Corsair. Il revient, Albator, pour les enfants de la Terre.
Albator 84, l'Atlantis de ma jeunesse, ou Arcadia of my youth en anglais et en japonais, merde.
Albator.
Voilà, je n'ai pas fait de japonais, donc...
Moi non plus.
donc, même pas GC. Voilà, donc, film japonais qui reprend l'univers d'Albator, créé par Leiji Matsumoto. Alors, c'est le film qui sert un peu de préquel à la série Albator 84, mm-hmm. qui malgré tous ses défauts, est pour moi la meilleure adaptation d'Albator en animation. Et du coup, dans ce film, on va nous présenter comment s'est mis en place la situation qu'on voit dans la série 84. Donc c'est un film sorti en 1982. Il n'est pas sorti en salle en France, d'après mes infos. Et en quoi c'est un film intéressant? C'est parce qu'il va jouer sur deux époques. Il va jouer sur le futur, j'ai plus l'année, mais c'est...
Il me semble 84.
Que c'est... Alors non, il me semble que c'est 2142 ou quelque chose comme ça, mais j'ai plus l'année, je suis désolé, j'ai pas révisé mes fiches, c'est vachement bien.
T'inquiète pas, personne t'en veut, t'inquiète pas.
Et puis une autre période qui est la Seconde Guerre mondiale. Et parce que
ah
ça...
oui, ok.
Voilà. Ah, là on parle.
et du coup... l'un des grands trucs du film, c'est de montrer que l'amitié entre les deux personnages principaux, donc Albator et Toshiro, Alfred en français, date en fait de leurs ancêtres depuis deux siècles.
D'accord. Car,
voilà. Et du coup, alors. Il y a tout l'aspect introduction à la série qui est très intéressant, de pourquoi aussi Albator va quitter la Terre, de pourquoi c'est un personnage qui paraît extrêmement froid, extrêmement distant, avec très peu de relations humaines. Ça va aussi introduire d'autres personnages, notamment celui d'Esmeraldas, la femme pirate rousse. Et autre chose intéressante, c'est qu'il y a aussi un aspect pilote dans les parties pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que l'ancêtre de Albator était pilote dans la Luftwaffe, donc l'armée de l'air allemande.
Ah oui, d'accord.
Est-ce qu'il y a assez rare, surtout pour cette époque, de montrer des gentils qui ont combattu du côté des méchants? Je sais pas si on a le droit de dire
le N-word.
Ouais, tu vois.
N-word. Le N-word.
Il y en a plein, en fait.
Qui ont lutté pour le national socialisme dans sa version longue.
J'ai achevé Sam.
Je suis en train d'imaginer la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'au lieu que ce soit le N-word auquel on pense, c'est l'autre N-word auquel on pense.
Oh, ça serait horrible.
Oui, oui. Allez, ne cassons pas le coin.
Pardon, mais du coup, il y a deux aspects pilotes, donc pilote de vaisseaux spatiaux et pilote d'avion. Et cette dynamique marche très bien parce que durant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ancêtre de Albator qui est un pilote émérite de l'armée de l'air et son ami qui est un ingénieur japonais. Alors que dans le futur, Albator est certes pilote, mais il est surtout capitaine de vaisseau, alors que son ami, lui, est vraiment, c'est vraiment lui qui a les commandes du vaisseau pour diriger. Donc film très sympa et que je vous invite à regarder, surtout si vous avez vu 84 avant. Regardez le film et puis re-regardez la série, vous y verrez plein de petits détails assez intéressants par la suite.
Ok, alors c'est vrai que moi, pour le coup, le film, je l'ai jamais vu. Je sais que la série, j'ai vu que des bribes à l'époque, des DVD, tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait toute cette histoire de bah, Albator, personnage froid, mais que tout le monde veut suivre parce qu'il prend de la liberté et qu'il a un lourd passé, etc. Et c'est vrai que bah, c'était évoqué dans la série de mémoire, parce que c'est très vieux. Hein,
c'est...
Mais c'est pas détaillé.
Non. Fou, en fait. Alors, dans 84, c'est jamais vraiment détaillé. Dans d'autres séries, c'est un peu plus détaillé.
Ok, bah, j'ai dû mélanger les séries.
Ouais, parce que dans 78, ils en parlent un peu plus, où t'as tout un épisode flashback sur son meilleur ami qui perd et de pourquoi c'est le parrain de la petite fille, Stella. C'est évoqué, mais c'est vrai que son passé est souvent mystérieux dans les séries d'animation. Bien qu'il y en ait certaines où on retrouve quelques infos, mais le problème du papa d'Albator, c'est qu'il refuse de finir toutes ses œuvres. Et il a une tendance générale au bordel.
D'accord, ok. Oui, bah, voilà, c'est okay. Un écho à beaucoup d'artistes, mine de rien.
Voilà,
ok. Donc là, j'étais en train de regarder sur un petit site qui s'appelle justwatch.com. C'est pas un placement produit ou quoi. C'est un site qui va juste vous permettre de taper le nom d'un film et de voir si vous pouvez retrouver le film sur toutes les plateformes existantes de streaming. Et ouais, en l'occurrence...
Séparer même celles qui sont en location, celles qui sont en abonnement.
Ouais.
C'est vachement pratique.
Je dis ça parce qu'en fait, bah, du coup, j'ai très envie de le voir. Et,
j'ai
bah,
le DVD. Hein.
Ok, bah voilà, de toute façon, c'est la meilleure solution, ouais, c'est physique.
Alors, c'est une recommandation. Alors, mais c'est un film où c'est très très compliqué de le trouver légalement. Je précise.
C'est ça. Et c'est pour ça que je regardais.
C'est parce que le trouver.
Mais écoutez, ouais. Rendez hommage à Albator et soyez un pirate.
Quelque part, oui. Bah, voilà, quelque part, oui. Vrai. Et puis surtout, le. Bon,
il est sur YouTube. Hein.
Oui, voilà. Bon. Ah oui, c'est vrai, il est sur YouTube de façon pirate, mais son auteur a jamais été contre cette forme de pratique-là, parce qu'il disait, bon, je fais des trucs pour les autres, moi je peux bien vivre, donc c'est pas un problème, tu vois.
Ok. Voilà. Erwan, tu as un rapport avec Albator, tu as vu, pas vu?
Je connais de nom, voilà.
Voilà, c'est... Ok, bah, c'est déjà bien. Nom,
et je connais l'incroyable vidéo de Ganesh, Albator, l'enculé de l'espace, et c'est tout.
Un classique, hein, bien sûr.
Mais non, je connais que de nom parce que je suis pas très Jap animation.
Ok, d'accord.
Hormis bah, Senseiya et Dragon Ball.
Bah, pour le coup, c'est. Bon, c'est un peu plus vieux, mais disons que c'est du rétro, donc c'est. Et surtout, la SF japonaise est toujours très intéressante dans son approche, je trouve.
Ah bah, surtout pour ce que ça raconte Albator,
ouais.
Où bah... c'est vraiment plus que d'actualité sur certaines thématiques.
Ah oui
On peut dire que Albator, c'était le premier lanceur d'alerte pour dire que la Terre va mal, que
ouais.
Personne n'y a cru, et qu'après tout le monde va le pointer du doigt en disant qu'il est responsable de tout ça, c'est en mode... Bah,
ah bah
et voilà.
Ah mais que ça soit 78, 84 ou même le film qui est sorti en 2013 ou 2014, ouais. J'ai plus la date, qui est pour le coup le film de 2014 que où j'ai un rapport conflictuel avec 2014. Ce film. Ouais. Mmh. J'ai un rapport conflictuel, mais qui en termes de message sur l'écologie. On le regarde en se disant « Ah ouais, ça craint !» Parce qu'on se rend compte qu'il est plus ou moins en train de se passer la même chose, donc c'est assez dramatique. Mais...
C'est vrai que le film de 2013, pour le coup, et pas 14, je me suis trompé,
oui.
C'était aussi un de mes deuxièmes approches en fait, d'Albator, et c'est vrai que en fait, quand je l'ai vu, c'était déjà j'étais bluffé par les graphismes, mais parce que clairement, pour moi, c'était du Final Fantasy à votre Children, quoi. C'est... On est sur du niveau Final Fantasy en termes de graphisme.
Ah
et,
oui,
Alors... Et reprendre Albator sur ça, franchement, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, je pense, parce que c'est un univers qui est tellement impressionnant. Et bon, voilà. Mais de toute façon, Albator, ça reste un classique pour moi, même si j'ai pas vu tous mes classiques, c'est normal. Mais pour le coup, c'est bien de m'avoir remis en avant ce film-là, parce que du coup, j'avais que des petits souvenirs. Et justement, je me dis, j'aimerais bien vraiment connaître le personnage et revoir les bases.
Voilà, voilà. Donc, pour le coup, 78 et tout. Alors bon. Je vais faire une petite rétrospective parce que lors de la mort du créateur, cette année en plus, c'est vrai, il est mort en août. Non, plus tôt que ça. J'ai plus le mois de...
Ah oui, oui, il est mort. Il est mort cette année, oui, récemment.
Il est mort cette année et pour ça en fait, je me suis refait tout l'intégrale et du coup, je vais peut-être faire une petite rétrospective très rapide. Du coup, 78, alors très enfantin sur certains points. L'animation a vieilli parce qu'on est vraiment sur une animation milieu-fin 70, donc c'est assez particulier. Très peu d'images par seconde. Mais ça reste très sympa, ça se regarde bien, la VF, bien que très inégale, est très culte. Et puis bol, les génériques français de cette époque sont incroyables. 84, pour moi, ça reste le meilleur du meilleur.
Le must du must, tu dirais.
Le must du must, exactement. Oh, voilà. Donc 84, must du must, bien qu'il y ait certains trucs qui me dérangent un peu, mais aucune œuvre n'est parfaite. Endless Odyssée est excellent dans sa façon de déconstruire le mythe, car je pense qu'une œuvre est bonne lorsqu'elle sait se déconstruire.
Oui, totalement.
Voilà, donc Endless Odyssée, très bonne déconstruction du mythe et présentation d'un Albator presque qui est à la fois le héros et l'antagoniste. Donc il y a aussi ce truc très intéressant. Cosmo Warrior, donc qui est une série plus récente, puisqu'elle date de début 2000, qui avait pour volonté de proposer une autre lecture de 84, mais du point de vue des méchants. Et okay. C'est en fait, de humains qui servent les méchants, donc c'est assez intéressant.
Ok, ouais, donc il y a vraiment de quoi faire, en fait.
Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, et je vais vous conseiller, alors il n'y a pas de pilote, mais je vais pas vous le conseiller.
Ah, t'as pas le droit. T'as pas le droit.
Je la garde pour une prochaine recommandation.
Yes.
Donc mystère, peut-être que je peut-être que vous serez, peut-être que vous ne serez pas.
Ça marche.
Mais voilà, du coup Albator, regardez, c'est sympa.
Ah de toute façon, c'est un appel à la liberté, et c'est le représentant même de ce qu'est la liberté, et
personnage... D'ailleurs, dans 84, c'est très bien expliqué, le nom de son pavillon, c'est l'étendard de la liberté.
Mmh.
Oh, c'est beau.
C'est très beau. Et toi, Sam, tu l'as vu?
C'est également le nom de ton pavillon dans Sea of Thieves, je suis sûr.
Et toi, tu as vu ou pas
Alors non, pas du tout. Moi, Albator, la seule approche que j'en ai, c'est le film de 2013, et j'en ai aucun souvenir. Voilà, faut vraiment que je me plonge dedans, ça me fait très... Si, pardon, my bad. J'ai lu le premier tome du manga.
Ok.
Que j'avais trouvé très intéressant. Alors, j'étais très jeune, j'étais tombé dessus complètement par hasard dans un café. Mais je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé, et de façon générale, c'est un univers qui me tente beaucoup, parce que j'essaye vraiment de refaire un peu ma culture classique des mangas.
Okay.
Donc tout ce qui est Matsumoto, mais aussi merde, j'ai complètement paumé des noms, les noms de...
Attends, bah...
De Tezuka, voilà.
Il y a Goldorak.
Ouais, mais Goldorak, ça m'intéresse un peu, moi.
Dragon Ball.
Non. Les premiers classiques.
Oui, alors,
mais voilà, j'essaie de m'intéresser
Kamen Rider, à ça. Kamen Rider.
Petit truc sur Goldorak, parce qu'en soi, ça parle de pilote un peu. La série Goldorak a vieilli, mais c'est... Oh, c'est horrible.
Ça
Alors, ah ouais, alors déjà, moi, je dois avouer que Goldorak, quand il est sous sa forme de vaisseau de transport, je trouve ça ridicule.
Ah ouais, non, mais
genre, c'est vrai, c'est un
ouais,
putain de frisbee avec la tête de Goldorak.
C'était ok, en fait, vraiment, pour l'époque, c'était ouais. Ok. Mais ça vieillit, par contre. Hein. L'animation, la VF, ah, ça vieillit, quand même.
Et c'est là... pour ça qu'il y a, il y a un jeu vidéo qui va sortir, là, en plus, fait par des Français, par Microïze, qui s'appelle Goldorak, le festin des loups. Et c'est vrai que, bon bah c'est fait avec les moyens qu'ils ont, hein, donc c'est d'ailleurs pas grand chose. Mais c'est vrai que tu vois vraiment tout ce design d'époque, aujourd'hui c'est étrange quoi, il y a vraiment...
Ouais, c'est bizarre. Mais pour le coup, il y avait des Français qui, bah, les mêmes qui avaient refait Albator en bande dessinée franco-belge avec un dessin un peu plus mature, un peu plus intéressant, bah ça marchait mieux, mais bon ça reste quand même un truc qui a pas bien vieilli, là où Albator a mieux vieilli, peut-être par son approche un peu plus mature, et puis ses menaces plus sérieuses, avec des sous-textes politiques très intéressants.
D'accord, ok. Et ben voilà, bah Albator, excellente recommandation du coup, de ta part, mon cher ami. Et puis voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, ça fait déjà pas mal de must à proposer. Donc Disney Speedstorm, un bon petit jeu à faire. Vous avez deux bons films à voir, à savoir Top Gun Maverick et Albator 84, enfin Albator l'Atlantis, ma jeunesse. Et un autre jeu que j'ai oublié, excusez-moi, aussi en rapport avec Albator plus ou moins, Star Wars, voilà, jeu de vaisseau. Donc, bon.
Star Wars Squadron.
Squadron, excusez-moi, pardon.
Squadron.
C'est vrai que moi, j'ai surtout connu Rogue Squadron sur GameCube, voilà. Les vrais.
Bah pas moi.
Moi j'attends le film.
Putain, très hâte.
Bah il est annulé donc tu peux l'attendre longtemps.
Ah yes.
Bah je l'attendrai.
Oh la balle perdue. Oh.
Ça c'est fait. Bon bah voilà, en tout cas je vous remercie à tous d'avoir proposé vos musts.
Oui.
Merci tout le monde. Ça va, c'était bien ouais.
Ouais, c'était franchement très sympa.
Ça, j'ai pas trop pris de temps de parole, c'est bon.
Non.
C'est cool. Oh, non, bah de toute façon, dans tous les cas, c'est toi qui présente, qui organise.
C'est moi le chef, hein.
Faut aussi que tu puisses être présent.
Voilà, c'est toi le chef. Là, pour une fois, c'est toi qui décide et qui nous gueule dessus.
c'est le j'ai bien compris que c'était le chat, le chef surtout. Hein.
Ah bah oui, Cosmo, il a bien passé devant la caméra et imposé.
Bah là, c'est Onyx derrière qui se lâche les patounes.
Exactement. Dommage que vous voyez pas ça sur le podcast. Ah, peut-être que plus tard sur Spotify, vu qu'on peut afficher les vidéos, peut-être à l'avenir. On verra.
Bah, juste des vidéos du chat qui se lèche la patoune pendant que les gens.
Ça serait tellement fou. Ça serait génial. Est-ce qu'on tease le prochain épisode ou pas?
Bah vas-y,
c'est toi qui vois, chef.
Moi j'allais dire, étant donné que celui-ci a déjà changé 3 fois de sujet, faut peut-être éviter.
C'est les débuts, c'est normal.
C'est un épisode pilote, c'est un test.
Ça fait des mois, voire des années que je veux faire un podcast, et c'est vrai que j'ai jamais eu le courage de le faire, ni la confiance en soi, et c'est pour ça que je vous remercie d'être là, parce que vous m'aidez à avancer, et c'est ça le plus important.
Moi je suis ravi, parce que je trouve que c'est un super projet.
Merci.
Moi aussi. Merci
à vous. Eh ben, y en aura d'autres. Et du coup, le prochain épisode, ce sera, en une phrase, un univers riche. Voilà.
Donc on va
Carlos Ghosn, bien sûr.
Alors, la private joke que personne n'aura parmi...
je peux la balancer comme ça. Bah, en gros, voilà, j'aime bien raconter des petits coulisses, comme ça vous êtes aussi dans la confidence, les auditeurs. C'est que j'ai créé, du coup, bah, forcément... pour qu'on s'organise, on se fait un petit Google Doc, etc. Et donc, du coup, il y a les thèmes déjà mis. Et quand tu donnes l'édition du doc à plusieurs personnes, bah forcément, tu t'attends à avoir des conneries du style Carlos Ghosn. Donc...
voilà, moi, j'ai ajouté tous les titres où je pouvais ajouter comme Carlos Ghosn de façon cohérente, je l'ai fait.
Donc, il faut qu'on arrive à insérer au moins Carlos Ghosn une fois dans chaque émission.
Comme ça s'insère dans les valises.
De manière subliminale, on verra, on trouvera une solution.
Exactement. Bon, prochain épisode, on le tourne dans une boîte.
En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie énormément. C'est vraiment un immense plaisir que de vous faire ce podcast-là. Merci à vous, messieurs. Plaisir de se revoir et de refaire un épisode. Du coup,
merci à toi pour l'invitation.
Et de rien.
Ouais, merci beaucoup pour l'invite, Flo.
Donc pour le moment, je mettrai tout ça sur mon compte Instagram Starflord, mais je pense qu'un petit compte va se créer au fur et à mesure, donc on verra bien. Voilà, donc merci à tous, des bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous faire plaisir. Salut.
Bisous. Salut.